Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 34. Une corde pendait à côté du tronc. Anthony s'en saisit et rassembla ses dernières forces pour se hisser à bord du vaisseau de bois immobile qui reposait sur les branches. Marion l'attendait à l'intérieur, elle l'accueillit avec un soulagement non dissimulé. « Te voilà enfin ! Je ne suis pas si en retard. Non, mais j'étais très en avance. Est-ce que tu aurais quelque chose à boire ?» Marion avait prévu à boire, mais aussi de quoi nourrir n'importe quel homme en perdition dans la nature, essentiellement des fruits secs et du pain frais, dont l'odeur semblable à celle qui parfume les alentours des boulangeries le matin emplissait la cabane. Anthony but 3 verres d'eau pleins avant de pouvoir entamer une conversation avec son hôte. « Tu as trouvé facilement ?» commença-t-elle. « Je n'ai pas eu de mal à me repérer sans boussole ni autres instruments sophistiqués, mais la difficulté était physique. Je n'ai pas l'habitude de marcher comme ça et je me demande bien comment je vais repartir. »« Ne t'inquiète pas pour ça, » répondit-elle de façon énigmatique. De toute évidence, elle avait minutieusement planifié le déroulement des événements. « Quel est le sens de ce défi que tu m'as lancé et que dois-je en conclure ?» Surprise par le caractère direct de la question, elle marqua un silence avant de répondre, pendant qu'Anthony avalait une figue et quelques cerneaux de noix. « Je tenais à te faire découvrir cet endroit pour diverses raisons et aussi pouvoir te parler sans que mon père ne soit présent. Tu as des soucis avec ton père ?»« Pas du tout, mais il y a des conversations qui ne souffrent pas de la présence d'un paternel. Mais on y reviendra plus tard. Comment tu trouves la cabane ?»« À vrai dire, je la connaissais déjà. Ton père me l'a fait visiter l'été dernier. »« Ah bon ?» dit Marion déçue. « Il ne me l'avait pas dit. »« Tu as bien failli le savoir, mais la lettre que je t'avais écrite à l'époque m'est revenue. » Tu m'as écrit l'été dernier, mais pour me dire quoi? Alors que ton père dormait sur ce matelas, j'ai feuilleté un ou deux bouquins qui sont sur cette étagère. À l'intérieur de l'un d'eux, j'ai découvert une photo de famille, une photo de votre famille. Anthony chercha comment aborder un sujet potentiellement douloureux en grignotant à nouveau quelques fruits secs. Il espérait que Marion s'expliquât spontanément, mais elle n'en fit rien. C'était dans Le Contrat social, je crois. Tu te souviens de cette photo? Il chercha le livre sur l'étagère, mais il n'y était plus. « Il est là, » dit-elle en tendant le bouquin. « Alors c'est toi qui as pris la photo ? Je l'ai cherchée tout à l'heure pour te la montrer, justement. Je ne l'ai pas prise avec moi de peur de l'abîmer, mais elle est chez moi et je m'en souviens parfaitement, et j'imagine que toi aussi, si tu l'avais cachée dans ce livre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?» Marion s'assit sur le fauteuil à bascule et invita Anthony à faire de même sur le tabouret de bois qui lui faisait face. Elle se pencha en avant, les mains sur ses genoux serrés, visiblement troublée à l'avance par ce qu'elle avait à lui confier. Anthony cessa de mâcher bruyamment pour écouter religieusement ce que Marion avait à lui révéler. « Effectivement, c'est une photo de notre famille, la dernière. Que s'est-il passé ensuite ?»« Pas la dernière en date, la dernière tout court. Toutes les autres photos de nous ont été détruites par mon père dans un accès de colère et de rage qu'il continuera de se reprocher jusqu'à sa mort. » J'ai pu sauver celle-ci qui était entre deux pages d'un autre livre, à la maison. Il ignore sans doute son existence. Tu ne lui as pas montré ? Non, non, mais j'ai failli le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, j'ai perdu ma mère. Elle était déjà malade sur cette photo. Le cancer l'a emportée en quelques mois. J'étais petite. Ce fut un traumatisme pour tout le monde, bien sûr, et plus particulièrement pour mon père. Enfin, pour nous aussi, naturellement. Nous, ton frère et toi ? Mes frères. Je n'ai souvenir que d'un garçon sur la photo. Oui, Michael était de l'autre côté de l'appareil. Il prenait la photo. Et tes frères, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont plus âgés que toi, j'imagine que... Nous avons eu un second drame dans la famille, dit-elle en bloquant sa respiration pour retenir un flot de larmes. Je suis désolé, dit Anthony, qui ne savait plus où se mettre. Désemparé, il tendit une main en direction de Marion, mais il était trop loin pour la toucher. Il replia son bras et adopta la même position prostrée que son interlocutrice, par mimétisme compassionnel. C'est utile que je t'en parle. Il m'est indispensable d'en parler, parfois, pour extérioriser ma tristesse. Je suis désolé que ça tombe sur toi, s'excusa-t-elle en esquissant un sourire. Non, je t'en prie, raconte-moi toute ton histoire, tout ce que tu veux, je t'écoute. À la mort de ma maman, mon père a traversé une période difficile, tant sur le plan émotionnel et moral que du point de vue de l'organisation matérielle et logistique pour s'occuper de nous trois. Il travaillait encore pour Airbus à l'époque et son métier prenant était difficilement compatible avec une vie de père esseulé. En même temps, il sentait bien qu'il ne pouvait surmonter son chagrin qu'en travaillant toujours et encore. Aussi s'efforçait-il de nous faire plaisir, dans la limite de son temps disponible, et le plus simple était alors de compenser matériellement ce qu'il ne pouvait pas nous offrir humainement. Mes frères étaient, comme presque tous les garçons de leur âge, passionnés de voitures. Lorsque Michael eut son permis, il lui acheta la voiture dont il rêvait, une Renault Clio, je crois. Une Clio Williams ne put s'empêcher de demander à Anthony, en se rendant compte immédiatement de la grossièreté de son intervention. « Voilà, confirma-t-elle, quelque chose comme ça. » Il l'a utilisée pendant plusieurs années, imprudemment, en faisant le malin devant ses copines, en roulant trop vite, mais mon père refusait de voir le côté dangereux de la chose et préférait se féliciter de la joie de vivre retrouvée de son fils, de ses fils même, parce que Romain, mon autre frère, suivait la même trajectoire et finit lui aussi par avoir son permis et obtenir de mon père cette 205 que tu as achetée. Mais il ne l'a jamais utilisée, ou presque, elle n'avait que très peu de kilomètres au compteur. Peu de temps après que mon père l'ait achetée, Michael et Romain sont allés ensemble à un festival de musique, dans la voiture de mon frère aîné donc. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais... ils ont eu un accident ? Dans un virage à quelques kilomètres de chez nous, une courbe qu'ils connaissaient parfaitement, mais ont-ils été surpris par un animal ou bien un ennui mécanique inopiné, on ne l'a jamais su. La voiture a été retrouvée à plusieurs centaines de mètres de la route, enfermant les corps sans vie de mes deux frères. Une larme trouva un passage pour s'écouler sur la joue de Marion. Anthony détourna le regard pour ne pas avoir à supporter cette image. Ses pensées tourbillonnaient en boucle, imaginant la suite de l'histoire tragique, le choc émotionnel, le désespoir qu'il a pu susciter chez Marion et Jean-Jacques déjà affectés par un premier décès. Il revécut chaque moment qu'il avait partagé avec eux sous ce nouvel éclairage. Il s'en voulut de l'obscénité involontaire et innocente, de la futilité incroyable de ses propres mots au moment d'acheter la voiture, ignorant tout du symbole morbide qu'elle pouvait représenter à leurs yeux. Il secoua la tête, en maudissant vainement le sort qui s'acharnait ainsi sur une seule famille. Marion poursuivit, en séchant ses larmes. Mon père a traversé une période de déni total. Sur la plaie encore ouverte de la mort de maman, on venait de donner deux coups de couteau supplémentaires qui faillirent lui être fatals. Il a connu des crises de délire d'une violence inouïe au cours desquelles il passait ses nerfs sur le matériel. Il a brisé notre téléviseur, brûlé nos photos qui lui rappelaient de trop amers souvenirs. La plupart de notre matériel électroménager a fini contre un mur ou écrasé au bas d'une fenêtre. Et toi, où étais-tu pendant ces crises ? Il ne m'a jamais fait de mal, si c'est le sens de ta question. Il me demandait pardon à la fin de chacun de ses accès de violence, en sanglotant entre mes bras de préadolescente. J'étais son unique et dernière raison de vivre. Il en avait conscience, et je pense que c'est pour moi qu'il a finalement surmonté cette nouvelle épreuve. Comment avez-vous pu continuer de vivre après ça ? Un jour, mon père est tombé sur un de mes livres de classe, un bouquin de SVT. Il savait que c'était ma matière de prédilection et ma manière à moi de ne pas succomber à la tristesse. Je me suis forcé à m'intéresser à des problèmes plus colossaux que nos malheurs familiaux, des problèmes à l'échelle de l'humanité. Il a lu un chapitre qui abordait le thème du dérèglement climatique, sujet qu'il avait plus ou moins ignoré jusque-là, puisque préoccupé par son travail et sa santé mentale après ses épreuves personnelles douloureuses. Il m'a demandé mon avis sur la question et il était déjà assez radical. J'avais déjà vu des reportages et lu des articles sur la fonte des glaces au pôle et ses conséquences. Je l'ai informé sur le sujet, avec mes mots d'enfant, sans doute avec beaucoup de maladresse et d'erreurs de raisonnement, mais il a littéralement bu mes paroles. J'ai vu son regard changer alors que je lui parlais, comme s'il reconstruisait tout son schéma de pensée en intégrant ses nouveaux paramètres. Il a acheté un bouquin sur le sujet, puis 2, 4, 10, il s'est passionné pour la question climatique, d'abord, puis pour la défense de l'environnement en général, et les causes scientifiques et sociales de tous les règlements qu'il constatait seulement depuis que je lui avais ouvert les yeux. Ses crises de colère ont cessé dès lors qu'il a commencé ses recherches, et les conséquences de cette prise de conscience ont fait de lui la personne que tu connais aujourd'hui. Il a démissionné de son poste d'ingénieur et s'est mis à planter des arbres et à en récolter les fruits. Il a transformé notre maison et modifié en profondeur notre mode de vie. Et financièrement, de quoi viviez-vous ? Sa réflexion ne s'est pas arrêtée au seul problème écologique. Il a rapidement fait le lien avec le modèle économique dominant et a cherché une alternative. Il visait l'autosuffisance et lorsqu'il l'a atteinte, s'est mis à donner tout ce qu'il avait en plus spontanément. et tout aussi spontanément, les gens lui ont donné en retour le fruit de leur travail. C'est ainsi qu'il peut manger au restaurant, récupérer une échelle ou une chambre à air, sans même se soucier du coût, la plupart des gens avec qui il échange lui sont largement redevables. Une lueur de fierté inondait les yeux tristes de Marion. Un éclair zébrant le ciel se refléta sur ses pupilles. Anthony se souvint soudain de l'endroit où il se trouvait. Un grondement sourd et puissant suivit la foudre de quelques secondes. « Ce n'est pas dangereux d'être dans un arbre pendant un orage ?»« Ce chêne a été épargné depuis la centaine d'années qu'il est ici. On peut raisonnablement espérer qu'il ne sera pas touché ce soir. Tu as peur ? » ajouta-t-elle d'un ton moqueur. « Un peu, concéda-t-il. Mais je crains encore plus de devoir marcher à nouveau pour partir d'ici. Ça tombe bien, puisque nous allons rester là. Jusqu'à quand ? » s'inquiéta Anthony. « Cette nuit. De toute façon, il est trop tard pour repartir et pense à tes ampoules. » Anthony constata par l'ouverture que la pénombre n'était pas le seul fait de l'orage. Le soir tombait à mesure que les nuages obscurcissaient davantage le ciel. Des gouttes de plus en plus nombreuses venaient s'écraser sur le toit de planches juste au-dessus d'eux, et la moiteur fit place à une fraîcheur plus agréable. Marion sortit de sous un linge une tarte aux légumes et servit deux verres de jus de pomme de sa fabrication. Elle invita Anthony à partager cet apéritif qui n'avait rien improvisé. Libérée de sa pesante tragédie familiale, Marion avait retrouvé le sourire et continuait de dérouler son plan comme prévu. « Maintenant parlons un peu de toi. Où en es-tu ? » ?»« À quel sujet ?»« À n'importe quel sujet, » dit-elle en croquant dans une part de quiche. « Eh bien, sans avoir traversé vos épreuves, je m'interroge moi aussi sur le sens de la vie. »« Le sens de la vie, rien que ça. » »« Le sens de la mienne, en tout cas. Je ne suis pas certain d'être fait pour vendre des téléphones. » ni même autre chose. À vrai dire, je ne suis plus certain de rien. » Il prit à son tour un morceau de tarte salée et en huma l'odeur avant de le mettre en bouche. La garniture tiède était composée de poivrons, de poireaux et de divers autres ingrédients inconnus qui en relevaient le goût. Affamé par sa randonnée et mis en appétit par les couleurs vives du plat, il avala sa part en regrettant de ne pouvoir passer plus de temps à en apprécier la saveur. Mais déjà Marion sortait d'on ne sait où le plat suivant, si bien que le pique-nique tourna au repas gastronomique végétarien et bio. Anthony découvrit de nouvelles saveurs et de nouveaux plaisirs, en croquant dans des légumes méconnus et biscornus, oubliés par une société de consommation obsédée par la standardisation et le calibrage. Un simple morceau de pain prenait la place d'un mets de choix, tant son odeur, sa texture, l'originalité de sa forme et de son goût différaient de ce qu'Anthony avait pu goûter, même dans les meilleurs restaurants de Londres ou de Paris. Ici, les aliments se fondaient dans l'environnement. Ils allaient avec, comme les résineux se plaisent à la montagne alors que les feuillus sont en plaine. En dégustant l'un d'eux, on retrouvait à coup sûr une odeur familière qui flottait dans l'atmosphère. On avait le sentiment soudain de faire partie d'un tout cohérent. Même les fruits conservés de l'année précédente semblaient vouloir témoigner de leur époque, tantôt sucrés grâce au soleil, tantôt juteux par l'action de la pluie qui les fit pousser. L'eau ruisselait maintenant sur le toit parfaitement étanche de la cabane qui remplissait ses réservoirs d'eau douce à la faveur de l'orage. L'obscurité presque totale était entrecoupée d'éclairs vifs et violents qui clignotaient pendant quelques secondes où les regards d'Anthony et Marion se croisaient. Le repas se termina sur des conversations anodines et plus légères. L'exiguïté du lieu et son charme naturel rapprochaient ostensiblement les âmes qui y élisaient domicile. De nombreux couples d'oiseaux pouvaient en témoigner et l'on trouvait les vestiges de leur nid en plusieurs endroits. Cela n'avait pas échappé à Marion, qui avait fait de l'étude des Pygocélis son sujet de thèse. Anthony se laissait guider passivement par son hôte qui semblait avoir planifié sa visite dans les moindres détails. Voyant approcher la nuit et souffrant de courbatures, il espérait que Marion ait une solution confortable à lui proposer, étant donné qu'un seul couchage était prévu dans la cabane. Il ne se voyait pas de passer la nuit sur le fauteuil à bascule, et bien sûr, il n'en fit rien. Marion couvrit rapidement la nourriture qu'elle pouvait encore apercevoir dans la nuit, de manière à ce qu'elle n'attire pas les animaux nocturnes importuns. Puis elle se tourna vers Anthony, qui semblait sombrer dans un demi-sommeil, terrassé par la fatigue. « Tu as triché, » lui dit-elle. « Pardon ? Tu n'as pas respecté les règles du défi. » Bien sûr que si, j'ai même failli mourir d'inanition faute de nourriture et d'eau. Tu as utilisé des objets qui ont été fabriqués au XXe siècle. Lesquels ? Demanda Anthony, persuadé de son bon droit. Marion laissa durer le suspense quelques secondes, forçant Anthony à se creuser la cervelle. Puis elle mit fin au silence, disant d'une voix douce et ferme à la fois : « Tes vêtements. »